Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Du Trisac. Un animateur pas comme les autres.
Cube Radio.
Bon, il y a Alain Pronkin qui est avec nous pour parler de nouvelles religieuses. Monsieur Pronkin, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Bon, tu commences avec le recensement, toi.
Oui, parce que c'est d'actualité, on en parle, on se fait recenser, j'ai reçu mon formulaire, j'ai rempli mon formulaire, je sais pas si toi tu l'as fait ou si c'est Madame du Trisac qui l'a fait.
Je sais même pas si on l'a reçu.
Ah, OK. Ben, en tout cas, moi, je l'ai reçu, puis ils te mettent un code. Puis, en tout cas, c'est supposé d'être secret. Et il y a quelque chose de spécial, parce que quand tu as un recensement, nos auditeurs doivent le savoir, tu as la forme courte et la forme longue. Moi, j'ai eu la forme courte, ça fait que ça a bien été, ça a pris 5 minutes, 6 minutes, le temps de comprendre. Mais tu as la forme longue. Et là, c'est la première fois qu'on pose une question aussi détaillée que ça, à la question 30. Fait que faites attention, ceux qui ont la forme longue, c'est la question 30. Mm-hmm. Là, il va falloir que tu précises c'est quoi ta religion. T'sais, normalement, ça allait bien. Catholique, protestant, musulman, juif, ça va bien. Mais maintenant, on va demander, dans le cas des musulmans, est-ce que vous êtes chiite ou sunnite? Dans le cas des juifs, on va demander, êtes-vous un hassidique? Êtes-vous un réformé, un séfarade, un conservateur? On va vraiment aller dans le détail pour chacune des différentes religions. Fait que du côté des protestants, on va demander, êtes-vous anglicain? Êtes-vous luthérien? Êtes-vous ci? Êtes-vous ça? Et là, on va beaucoup plus loin. Je me suis toujours posé la question, dans un pays où on a une séparation Église-État, est-ce qu'on doit aller dans ces détails-là ou simplement demander, est-ce que vous faites partie d'une Église quelconque?
Est-ce qu'on peut utiliser ces informations-là pour choisir le candidat dans une circonscription ou une autre?
Ben, c'est supposé être secret. Moi, c'est toujours le secret, la confidentialité. Pourtant, tout le monde se fait voler ses données personnelles.
Ben oui.
Où qu'on soit. Donc, est-ce que quelqu'un peut voler ça? Je le sais pas. Mais je trouve que ça commence à aller un petit peu dans le détail, un petit peu dans le pointu. Tu sais, que les gens vont dire, ah, faites attention, lui, c'est un chiite. Donc, il doit venir d'Iran. Est-ce que c'est les méchants? Tu sais, est-ce qu'on va aller à ça? J'espère que non. Parce que ça n'a pas de sens.
Non, non, on ne fera pas ça.
Ça n'a pas de sens.
On n'est pas là. Bon,
mais on est rendu là dans les questions. C'est nouveau pour moi.
Les évêques du Canada.
Oui, les évêques du Canada, ça, c'est nouveau. On n'a pas tellement entendu parler la semaine dernière, mais on sait que le pape François a décidé en 2019 de dire, écoutez, les évêques vont être redevables. Les évêques qui ont caché ou qui ont camouflé des affaires de prêtres pédophiles vont être redevables et on va pouvoir faire des plaintes contre eux. C'est bien beau, mais comment tu fais une plainte contre un évêque si celui qui reçoit la plainte, c'est l'évêque lui-même? Parce que l'évêque dirige, ça veut dire que l'évêque de Montréal, Mgr Lépine, s'occupe de Montréal, s'occupe de la Rive-Sud, un autre va être évêque de Trois-Rivières, donc c'est difficile de faire une plainte. Et si tu vas dans un autre diocèse pour faire une plainte contre ton premier diocèse, ça a l'air fou. Alors, on a mis une procédure en place au niveau des évêques canadiens, où là, tu as un système qui est supervisé par la compagnie Clearview, qui est à Toronto, mais inquiète pas, j'ai vérifié, il y a des Québécois qui œuvrent là-dedans. Bon, c'est quand même bien structuré. Ben, disons, ça a l'air d'être bien structuré, mais encore une fois, c'est l'information. On va donner des informations, semble-t-il que ça va être codé. Si tu te plains contre un évêque quelconque, ça va aller à l'archevêque. Ça veut dire que tu te plains contre l'évêque, je sais pas moi, de Longueuil, ça va aller à Mgr Lépine. Mais là, si tu te plains d'un archevêque, parce qu'au-dessus d'un archevêque, il n'y a pas grand-chose, sauf si tu vas au Vatican, ben là, ça va être sûrement le nonce apostolique qui va s'occuper de la plainte. Lui, il relève du pape. Donc, on a mis une procédure pour se plaindre des évêques qui ont camouflé des affaires de prêtres pédophiles. Mais ça ne s'applique qu'aux évêques qui sont toujours vivants. Donc, si tu es mort, pas de difficulté. Ils ne pourront pas te poursuivre. Non, mais c'est important.
Mais c'est un peu tard. Non, là.
Ben ouais, parce que si tu veux être canonisé, oublie pas, il faut que tu fasses des miracles après ta mort.
Ah ouais.
Après la mort, ça existe.
OK, fait il faudrait qu'ils s'excusent après leur mort.
Oui.
Pour être canonisé.
Voilà, mais c'est réglé. Non, parce que c'est arrivé récemment à Rome. On allait béatifier ou canoniser des gens et on a retiré les dossiers quand on s'est aperçu qu'ils trempaient dans des affaires de prêtres pédophiles.
Whoops.
C'est quand même récent, mais on fait attention à cette dimension-là.
On n'a pas les saints qu'on avait, hein?
Non, mais si t'es mort, t'auras pas de peine contre toi.
OK. Archidiocèse de Montréal. Bon, là, on règle un problème en créant un poste de
L'Ombudsman. Ouais. Encore une fois, les gens vont pouvoir appeler directement l'Ombudsman, qui est Maître Kerouac, qui nous a assuré de son indépendance parce qu'il était de religion juive. Et elle dit, ben écoutez, les gens vont faire une plainte à mon bureau, je vais recevoir ça, et après ça, je vais les traiter. Et tout ce qu'on va me dire, bon, et c'est toujours encore une fois le problème de la confidentialité. J'ai posé certaines questions et on m'a dit qu'on va travailler sur les questions de confidentialité. Parce que si tu fais une plainte et que tu donnes des informations et que ça va à un comité aviseur, oui, il y a un comité aviseur, il y a des psychologues, il y a vraiment une équipe très professionnelle à ce niveau-là, mais qui me dit que les informations que je vais recevoir, que je vais te donner, n'aboutiront pas dans les mains des assureurs responsabilité du diocèse. Mmh. Et que ça peut se retourner contre moi si jamais il y a une procédure. Parce qu'oublie pas, actuellement...
Excuse-moi, Alain, mais t'as jamais de nouvelles constructives sur l'Église catholique. C'est toujours des pédophiles puis des poignées de cul. Puis là, là, il y a acte de contrition. Il y en a un qui s'en va en prison, puis il y en a un qui s'en sauve. Mais ils font quoi de leur journée? Le Vatican fait quoi de ses journées? Monseigneur Lépine fait quoi de ses journées de façon constructive, là, positive, pour aider le monde?
Ben, ils vont essayer d'aider. Du côté du Vatican, bon, on va dire, écoute, faut vacciner les plus démunis. On sait que le pape, il se bat pour vacciner les plus démunis. Il se bat pour qu'on vaccine les pays en voie de développement, comme l'Afrique. Il va dire, écoute, faut aller vacciner. Lui, il travaille fort à ce niveau-là. Au niveau social, c'est souvent une critique qu'on a de l'Église québécoise et canadienne. On dit, est-ce que vous travaillez fort au niveau des questions sociales, des enjeux sociaux? Parce que c'est ça votre force. Les enjeux sociaux. Est-ce que vous prenez votre place? Je donne toujours l'exemple. Souviens-toi de la grève de l'amiante à l'époque, mais tu avais Mgr Charbonneau qui s'élevait contre le premier ministre. Ouais, mais ça, on n'a plus ça.
Avec Michel Chartrand.
Avec Michel Chartrand. Mais lui, il s'élevait. Ça, c'était vrai.
Ouais, ouais, ouais.
Michel Chartrand, c'était vrai.
Ouais. L'oratoire Saint-Joseph, Alain?
Oui, au niveau de l'oratoire Saint-Joseph, il a fallu arrêter les travaux. Parce qu'on a découvert récemment des ossements humains. Et il semble-t-il qu'on a fait une étude, parce que là, on a fait venir l'équipe d'archéologues, et les archéologues disent, écoutez, on pense que c'est des ossements humains qui sont autochtones. On pense que c'est des Mohawks de Kanawake. Fait qu'on n'est pas certain, mais on va faire une étude là-dessus. Mais ça ralentit tout le processus. Alors, à ce moment-là, le conseil de bande de Kanawake est allé. On a fait des cérémonies discrètes, parce qu'on avait trouvé des ossements que l'on croit appartenir à des Mohawks de cette région-là. Et finalement, on a pris des décisions en disant, écoute, on ne commencera pas à chercher d'autres ossements. On ne veut pas déranger les corps des Autochtones qui peuvent être enterrés à cet endroit-là. Mais la conséquence, c'est que les travaux sont retardés, tu as des fournisseurs qui n'ont pas payé leurs sous-contractants et tu as des immeubles où il y a eu des hypothèques légales qui ont été prises pour s'assurer du paiement des sous-contractants.
Mm-hmm.
Alors là, semble-t-il que tout cela va se régler puis va repartir, mais il y a eu un stop dans ces travaux-là, puis ça va repartir bientôt. Puis l'oratoire Saint-Joseph, il faut entendre que c'est un des lieux, sinon le lieu le plus visité à Montréal, lorsqu'il y a des touristes.
Le juge antimafia Livatino a été béatifié?
Oui, ça c'est un juge antimafia. Et dans les années 90, bon, il faisait ses enquêtes contre la mafia, et il a été assassiné le 21 septembre. Il revenait de l'église, puis on l'a assassiné, évidemment par la mafia. Il avait 38 ans, et on a fait de sa chemise, qui était pleine de sang, on en a fait une relique, et on a décidé de le faire canoniser, comme quoi, béatifié d'abord, parce que il est un martyr. Mais quand on est martyr, Benoît, on n'a pas besoin de faire des miracles après sa mort. On est un martyr, c'est pour la cause. Ce qu'on sait de lui, entre autres, c'est qu'il avait 38 ans et il n'était pas marié. C'est un célibataire. Il allait à la messe chaque jour. Et il a été assassiné par la mafia. C'est toujours... Mais écoute, ils l'ont tiré, puis après ça, pour être certain, parce qu'il essayait de se sauver, on lui a tiré 2 balles dans la tête. C'était assez violent à cette époque-là. Et je pense que c'est pas le premier des juges qui a été tué, mais c'est un des juges antimafia. Ce qu'on sait, c'est que le tueur principal, Gaetano Puzzangaro, lui a rapporté les paroles du magistrat, puis il a dit « Petit, que vous ai-je fait? » C'est ce qu'il aurait dit à ses assaillants, à ses tueurs à ce moment-là.
Sais-tu ce qui est extraordinaire? C'est qu'en sachant tout ça, puis ça remonte à 1990, c'est que l'Église catholique a continué de marier les mafieux, mais refusait de marier des deux hommes qui s'aimaient ou deux femmes qui s'aimaient.
Oui, mais pire, Benoît, pas marier, juste bénir les unions de gens du même sexe. Et là, on veut, c'est l'autre nouvelle, on a créé au Vatican un groupe de travail sur l'excommunication des mafias. On dit pas de la mafia, mais des mafias. Est-ce que ça va comprendre les motards criminalisés? Est-ce que ça va comprendre les gangs de rue? Et c'est une volonté du pape. Il a dit, écoutez, il va falloir que dans chaque pays, ça veut dire sans doute au Canada, on va se poser la question, on va faire des réflexions. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on sait que même ici, il y a eu des mariages de mafieux, il y a des funérailles de mafieux. Et le pape dit, c'est terminé, c'est de l'excommunication, à moins que la personne se soit repentie de son vivant. Ça, c'est une autre possibilité.
Mais encore faut-il le prouver, tu sais.
Encore faut-il le prouver. Mais ce qui est important, c'est qu'on se pose la question, puis j'ai hâte de voir si l'Église québécoise et canadienne va dire, écoutez, c'est fini les mariages de motards criminalisés ou de mafieux. Ils iront tout simplement au palais de justice pour se marier.
C'est tout. En Égypte?
Oui, en Égypte, on a un moine copte orthodoxe qui a été exécuté. Ce qu'il avait fait, il s'entendait pas avec l'évêque qui était dans son monastère et il l'a tué à coups de barre de métal. Il y avait un complice qui l'avait aidé. Le complice, je sais pas pourquoi, mais le complice, lui, il a juste eu 25 ans de prison, tandis que Isaïe Al-Makari, lui, il a été exécuté, je pense, hier ou avant-hier, pour avoir tué son évêque. Il semblerait qu'il y a des raisons. Il y en a qui parlent d'un problème de mœurs, d'autres qui disent non, c'est un problème d'ambition, et d'autres qui disent tout simplement, au niveau des autorités ecclésiales, qu'il y avait un différent, une tension au niveau du monastère.
Il y a une méchante tension, un coup de barre de fer.
À coup de barre de fer. Ben, et dans un couloir, puis on l'a laissé mourir, tout simplement.
Dégueulasse. Puis, avant qu'on se quitte, la dernière, un futur camp d'été, le juif orthodoxe.
Oui, parce qu'on sait que dans certaines communautés juives orthodoxes aux États-Unis, on est contre la vaccination, la vaccination d'à peu près tous les types de vaccins. Parce qu'on dit, si tu es vacciné, tu as plus de chances de le donner aux autres. Bon, ce qui est absolument faux. Là, on a dit, il va y avoir un camp d'été et ceux qui seront vaccinés ne seront pas ennemis. Donc, c'est l'inverse du passeport vaccinal. C'est ça que je trouvais absolument horrible. Tout le monde se dit, on va avoir des passeports vaccinaux, puis là, on pourra pas. Non, eux autres, c'est le contraire. Si tu as le vaccin, tu sais, mais à ce moment-là, tu reçois le vaccin, mais tu le dis pas que tu as reçu le vaccin, tu n'as pas de passeport. En tout cas, je vois pas. Mais ça devient compliqué. Mais c'est quand même fantastique. Et la publicité est taxée comme ça. Pas de personnes vaccinées pour aller dans notre camp. Là, ce qui va arriver, il va arriver comme il est arrivé pour les oreillons, pour la rougeole. Les enfants vont l'attraper. Là, le gouverneur va être obligé d'intervenir en disant, s'ils sont pas vaccinés, à ce moment-là, vous allez recevoir des amendes. Puis les enfants, on va fermer vos écoles religieuses. Et quand on dit qu'on va fermer les écoles religieuses, les gens se sont comme immunisés à ce moment-là. Car c'était des questions de rougeole, puis de...
Tu négocies pas avec les intégristes religieux. C'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est noir, c'est oui, c'est vrai, c'est faux. Ça s'arrête là, puis voici comment ça va marcher. Parce que sinon, ils te respectent pas, puis ils t'insultent. Puis on les a vus à Montréal, là. Ils ont fait toutes sortes de rassemblements. Ils ont traité les policiers de nazis. Ils jouent toujours aux victimes, alors que c'est eux. Mais après, quand ils sont malades, ils te demandent de les traiter, puis de les traiter avec soin. Puis en respectant toutes leurs croyances. Il y a des bouts là où ils poussent le bouchon pas mal loin. On se laisse là-dessus, Alain. On se reparle demain.
Bonne journée.
La semaine prochaine.
Oui, on peut se reparler demain quand même.
Salut.
OK, bye.